Les carnets du soir, avec l'abbé Denis Veilleux.
Les carnets du soir vous proposent de me suivre comme pèlerin dans différents lieux à Rome, la ville éternelle. Je vous livre différentes pensées et réflexions. Suivez-moi dans cette réalité.
Et c'est un autre jour, ce jour qui nous amène dans les rues de Rome. C'est une journée magnifique, il fait très beau, il y a beaucoup de monde, beaucoup de pèlerins, beaucoup de touristes, beaucoup de jeunes aussi qui font partie probablement de sorties scolaires. Alors on voit ces jeunes qui sont dans les rues, qui visitent et qui lors du repas, alors on voit des boîtes de pizza qui se promènent un peu partout et les jeunes sont assis sur les marches des immeubles et mangent un morceau de pizza. Donc c'est la vie, c'est la vie, c'est une vie trépidante. Si vous voyez la circulation qui existe ici, pour traverser d'une rue à l'autre, on a les feux comme chez nous. Mais chez nous, lorsque ça prend plus d'une minute, la patience est à son comble. Ici, c'est au moins 5 minutes. Et parfois, ce sont des policiers qui sont là, des agents de sécurité, qui font la circulation et qui nous aident à traverser parce que je ne sais pas comment on est en mesure de contrôler d'une certaine manière le flux du trafic dans la ville de Rome, mais c'est quelque chose d'extrêmement important à mon avis. Je sais qu'il y a des jours où les voitures, les automobiles, eh bien, ne peuvent pas entrer dans le centre de Rome. Et ça deviendra de plus en plus la réalité, parce qu'il y a trop de monde. Et moi, j'ai vu l'évolution de ces réalités-là au cours des 30 et 40 dernières années. Je suis venu à Rome l'année de mon ordination en 1978. Vous imaginez, ça fait 45 ans. Donc, j'ai vu l'évolution de ces grandes villes, et c'est devenu problématique. Problématique, c'est le mot. Mais quand même, alors il faut avoir un peu de patience. Il y a des travaux partout. Il y a des travaux partout. C'est comme chez nous. Et je n'apprécie pas beaucoup ces travaux où je vois des personnes en hauteur qui sont en train de monter un des éléments de construction ou des échafauds. Oh là là, je n'aime pas passer en dessous. Donc j'ai attendu un certain temps pour être en mesure de passer lorsqu'il n'y aurait pas d'action. Parce que vous savez, lorsqu'on monte un élément, eh bien l'élément lui-même doit être manipulé. Et le moindre petit geste qui manquerait ferait en sorte qu'il y aura un accident. Alors je n'aime pas ces choses-là, je le dis. Ça fait partie de mon histoire. Le but, c'est d'aller d'abord dans une basilique, la basilique qui est dédiée au Dominicain, Saint-Dominique, qu'on appelle la Minerve. Alors, pour vous situer, pour ceux et celles qui sont déjà venus dans la ville de Rome, vous allez tout de suite comprendre, on voit sur la place, en face de l'église, un petit éléphant stylisé, magnifique, qui porte sur son dos un obélisque. Il y a tout pour jouer, là. Eh bien, nous sommes arrivés dans une troupe d'enfants qui avaient tout pour jouer. Ils avaient des ballons, des petits ballons, vous savez, qu'on souffle pour les anniversaires, là. Et les enfants jouaient en attendant probablement quelqu'un parce qu'on ne les a pas vus entrer dans la basilique. Ils sont restés à l'extérieur. Alors, ils étaient en train de jouer. C'était beau de voir jouer les enfants. C'est toujours beau parce que c'est l'étonnement, c'est la surprise, c'est l'innocence. C'est tout ce qu'on a été. C'est tout ce qu'on a été. Et malheureusement, peut-être qu'on le perd en cours de vie, en cours de route. Cette innocence, cette joie simple, on s'amusait avec rien. Aujourd'hui, ça prend des tonnes de choses pour s'amuser. Ces enfants, aujourd'hui, s'amusaient avec rien. Et c'était magnifique. Ces petits ballons rouges qu'ils faisaient monter comme cela. Et c'est, bon, c'est les plus grands qui arrivaient à pouvoir donner le premier coup. Il y en a d'autres qui soufflent. Ils soufflent sur le ballon. D'autres courent. Ils sont dans leur monde. Quand on est enfant, on est aussi dans notre monde. Le monde du jeu. Le monde de la joie. Et tout cela est un mouvement. C'est un mouvement intérieur. C'est un mouvement du cœur. Il y a des personnes de grand âge qui ont gardé, qui ont conservé ce cœur d'enfant. Et ces personnes, elles sont toujours en mouvement de jeu. Elles jouent, elles aiment. Elles aiment les jeux en général, les jeux de mots, l'humour, le sourire, des gestes simples, peut-être aussi des objets qu'elles collectionnent tout simplement et qui rappellent l'importance du jeu dans notre vie, qui fait partie du réel. Le jeu n'est pas l'irréel, le jeu fait partie du réel. Et on ne joue pas assez, à mon avis. On ne joue pas assez. On est adulte trop vite. On a des responsabilités sur les épaules assez rapidement. Et on devrait conserver, tout en grandissant, cette partie du jeu de la vie, du jeu entre les amis aussi, parce que le jeu, c'est aussi un vis-à-vis ou d'autres personnes qui sont avec nous. Et là, on peut y avoir une certaine compétition, on veut gagner, mais c'est bon, tout cela est bon, tout cela équilibre notre histoire et notre vie. C'est l'équilibre.
Voici maintenant l'émissive. Il s'agit de 18 lettres d'un descendant de Bernardo di Perugia, Bernard de Honfleur, ou descendant de Béic di La Fleur, Leonardo di La Fleur. Nous sommes 400 ans plus tard. C'est Bernard de Honfleur en France qui prend l'initiative. Il désire venir en Nouvelle-France et se raconte. Prise de son Yannick Caron, musique et bruitage François Couture.
Monsieur Leonardo di La Fleur, je viens de penser, et c'est si étrange que je ne l'ai encore fait, que vous ne connaissez pas les épistolaires dont je vous entretiens parfois. S'ils nous sont parvenus, c'est que vous ne les avez plus. Comment ai-je pu ne pas y songer? Cela me dépasse. Il n'y a qu'une seule copie de ces épistolaires écrits par mon ancêtre Bernardo di Perugia. Y aurait-il une copie de ces manuscrits chez vous? Dites-moi. Mais je ne crois pas. J'attendrai votre réponse, et si vous ne les connaissez pas, je vous en ferai une copie. Ils sont maintenant à Rome, m'a dit hier le marchand. Je ne sais pas comment il l'a appris, mais j'ai confiance en sa parole. Je vous disais que cet homme est une énigme pour moi. Il m'a très bien donné salaire pour la traduction, et je l'en ai remercié. Il m'a demandé de venir quand même chaque jour dans cet espace qu'il m'a offert pour la traduction. Comme il reçoit beaucoup de gens, le fait de savoir qu'une autre personne est dans sa demeure lui apporte une sécurité. Mais comment puis-je venir ici alors que mon travail de traduction est terminé? Je ne sais comment lui dire. A-t-il d'autres projets à me confier? Je ne sais. Le jésuite qui veut me faire écrire est revenu me voir. Je ne sais comment l'exprimer, mais sa présence me fatigue. Il bouge tout le temps lorsqu'il parle, quand il ne se met pas debout à arpenter la pièce fort petite. Je me sens dans une cage avec un lion. Pas commode. Je lui ai dit à nouveau que je ne souhaitais pas faire ce travail et lui ai rappelé la sage parole de son confrère de la compagnie. Il ne s'en souvenait pas. J'ai donc repris. Nous n'avons pas besoin d'écrivains, mais de témoins. C'est alors qu'il m'a désigné comme témoin de leurs faits et gestes sans les avoir vus de première main. Étrange. Je refusai à nouveau. Il quitta les lieux. Il y a de ces personnes qui ne lâchent pas leur lubie. Ce sera l'anniversaire de notre arrivée en Nouvelle-France dans moins de 2 mois. Quel souvenir! Savez-vous pourquoi l'évêque est venu me rencontrer il y a plusieurs mois? Je me sentais si petit, si indigne de recevoir un tel homme. Il est venu là où je travaille, chez le marchand. Lui, l'évêque, n'est pas une énigme. Il m'a demandé sans détour si j'accepterais d'être le parrain de l'enfant qui naîtra de la jeune veuve. J'étais estomaqué. Moi ? Je lui répondis que j'étais bien jeune pour avoir une telle responsabilité. Il me demanda mon âge. C'est alors qu'il sourit en me regardant et me dit « À votre âge, j'étais prêt à partir pour la Cochinchine, mon fils. » Je ne savais quoi répondre à cela. Il me demanda d'y réfléchir. Vous voyez comment sont les grands hommes? Ils ne vous forcent pas la main. Ils demandent et laissent le temps à la réponse de voir le jour. Ils ne tirent pas notre langue. J'ai donc réfléchi et accepté cet honneur en tremblant. L'enfant n'est pas né et personne ne voit la jeune veuve, toujours cachée chez les hospitalières. Mais au fait, il faudra lui trouver une marraine. Ce n'est pas mon affaire, on verra. Je ne sais toujours pas comment demain sera fait pour moi, avec mes études de langue. Ici, tout est à bâtir, et on n'a pas vraiment le temps d'apprendre une autre langue que la sienne. Mais peut-être me risquerai-je auprès des Ursulines. Qui sait si nous n'aurons pas une idée lumineuse? Un pays ne peut se construire sans visionnaires et marchands. Tous les autres en dépendent. Les visionnaires sont ceux et celles qui ont vu sans avoir vu et qui sont partis ou venus dans cet esprit. Ils voient et cela suffit. Les marchands les suivent, à la trace, eux qui voient les affaires. Quant aux autres, ils croient en ceux qui ont vu et ils leur font confiance. Nous sommes tous tributaires des visionnaires, Leonardo. Le savez-vous? C'est ainsi que vous avez vu sans voir votre mariage qui sera bientôt célébré. Vous êtes, vous et votre fiancé, les visionnaires de maintenant. N'est-ce pas merveilleux? Quant à moi, je dois dire que ma vue est bien courte. Mais le marchand a eu la vision de la traduction des épistolaires et j'ai vécu grâce à cela. J'ignore comment les choses iront si toutefois on les imprime. Ce sera un grand événement pour nous. Demain, je vais voir si je peux rencontrer la visionnaire des Ursulines. Il me semble qu'elle m'écoutera derrière la grille. Ne vous étonnez pas. Toutes ces religieuses nous parlent en face, mais devant un grillage mieux que ceux des prisons. Priez Notre-Dame, afin que cette rencontre soit éclairée. Bernard de Québec, vôtre.
C'était les Carnets du soir avec Denis Veilleux qui vous parle. Réalisation technique, Yannick Caron.